Voici donc la deuxième partie de l'épisode enregistré avec Quentin de la brasserie du Vallon.
Bon,
est-ce qu'on boirait pas une autre bière par hasard?
Bah oui. Pas là pour enfiler des perles, ah, Dieu. Qu'est-ce qu'il nous reste du coup?
Eh ben il en reste deux, il reste l'hydromène et la pâtissière. Bière brune d'hiver.
Bah, je pense qu'on va enchaîner peut-être sur la pâtissière avant de
finir sur l'hydromel.
Voilà.
On y va crescendo.
Allez, raconte-nous un peu cette bière.
Ah, la pâtissière, la fameuse. Alors, s'il y a une bière qui doit personnifier la brasserie du Vallon, c'est la pâtissière, clairement. Parce que bah, je vous l'ai dit que j'ai pas de gamme fixe, j'ai toujours des idées. Et ces idées ont un nom. En l'occurrence, mon idée de bière brune, ma conception de la bière brune parfaite, en tout cas ce que j'aime, c'est la pâtissière. Et là, c'est une bière brune. Et ouais, ça c'est la version hivernale, du coup elle a 6,7% d'alcool.
6,7 en termes d'alcool, ça reste raisonnable.
Mais pour la brasserie du Vallon, c'est un record.
Et c'est la bière dont tu es le plus fier.
Alors, la version hivernale, pas forcément. Moi, j'ai toujours un souvenir en tête, c'était la version 4, il me semble, que j'ai fait pour le Strasbourg Fest 2018. Où là, bah, c'est là que j'avais rencontré Mathieu de topbeer.fr. Et lui, il était devenu complètement dingue de cette bière. Et c'est vrai qu'elle faisait une mousse crémeuse, mais vraiment. Elle était juste parfaite. Et là, je suis revenu un petit peu sur cette recette, justement, mais je l'ai mis un peu plus intense. Quoi.
Du coup, une bière avec plus de protéines, donc.
Du blé, en fait, ouais, c'est ça. Ouais. Les protéines étaient pour avoir de la rondeur en bouche. J'ai mis des céréales dedans qui contiennent pas mal de protéines, et en l'occurrence, du blé. Du blé un petit peu torréfié pour aussi apporter la couleur, le côté grillé, le côté un peu mie de pain, mais bien gris, quoi. Enfin, bon, je vais pas trop vous en dire. On va la goûter, on verra ce que vous en pensez. Je vous laisse m'introduire.
Ça te fâche,
ce que vous voulez. Où vous voulez.
Quand vous voulez. Du coup, je vais te laisser le faire, Benoît.
Maintenant que tout le monde est à l'aise.
J'ai peur d'être maladroit.
On va déguster maintenant la quatrième bière. Que je dise pas de bêtises, parce qu'on a eu d'abord la Folie Douce.
Yes.
Ensuite, on est parti sur les Sour, donc la Toeul. Ensuite, celle de Dieu du Ciel. Et maintenant, on va repartir sur quelque chose de plus.
Retourne dans le vallon de Steinbach avec la pâtissière.
Bon, allez, c'est parti.
Une Schwartz.
Une bière de bûcheron.
Allez, bim.
Attends, on va voir si j'arrive à faire sauter la capsule cette fois. Alors, oui, mais c'était pas comme ça que je voulais faire.
Je pense que dans un épisode, à une ouverture, il faudra qu'on en sabrune.
Oui, mais bien sûr, la prochaine fois qu'on est filmé.
Petite dernière pour la route. Alors, elle mousse très peu. Je l'ai embouteillée avec assez peu de levure, elle avait déjà bien clarifié. Du coup, elle a eu du mal à refermenter. C'est vraiment ça, c'est juste un petit proto que j'ai fait pour le fun. Une
belle couleur caramel.
Oh, même plus que caramel, là. Caramel bien foncé.
Là, on est plus sur... Alors on est peut-être pas sur la couleur d'un stout, mais plutôt un porteur ou une.
C'est ça, un brun en fait, un brun moyen on va dire. C'est pas un brun clair, c'est pas un brun foncé. On est un peu entre les deux. Avec des reflets, quand tu regardes un peu au soleil, t'as des reflets acajou.
Au nez, il y a un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt
pain,
dessus.
Du pain grillé, il en parlait tout à l'heure, en la décrivant, et ça se retrouve énormément.
Ça, c'est le blé torréfié. Après, on n'a pas rincé le verre de la bière d'avant, donc à mon avis, il y a un petit peu de framboise. Moi, je le sens, en tout cas, la bière d'avant dans le verre, le côté fruité de la framboise qui revient. Bon, c'est bon sur une brune, soit dit en passant.
La framboise sur une tartine, sur le pain grillé, ça peut passer.
Tu vois, on arrive à un niveau, à 6,7%, on sent déjà un peu l'alcool. Il y a déjà une certaine force, enfin moi, je le...
Mais ça reste toujours léger. Enfin, moi, c'est ce que je trouve toujours intéressant sur les. J'ai dû en goûter quelques-unes des pâtissières maintenant.
Ouais.
Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est que tu t'attends à avoir quelque chose d'hyper. Hyper violent en bouche. Et finalement, ça passe plutôt très bien.
C'est pas agressif.
Ouais.
Alors que c'est quand même. Il y a une certaine puissance, mais c'est pas agressif.
Après, tu vois, elle s'appelle la pâtissière, parce que moi, mon objectif, c'est pas d'en faire une bière de dessert, tu vois, je veux pas que ce soit, on peut trouver maintenant des bières, la Sweet Baby Jesus, notamment, je sais même plus quelle brasserie fait ça, mais qui est tellement sucrée au beurre de cacahuète, là, qui est très bonne.
J'en ai bu une il y a 15 jours.
Ouais.
C'est du clos.
En tout cas, quoi qu'il en soit, cette bière, elle est vachement bonne, tu vois, très intense, une brune et tout, mais très sucrée aussi, c'est une bière de dessert. Alors que moi, elle s'appelle la pâtissière, ok, mais c'est parce qu'il y a, il y a un côté chocolaté et tout, et puis on peut vraiment... Enfin, tu vois, c'est une bière brune, pourtant il n'y a quasiment pas d'amertume. Il y a des houblons américains pourtant dedans un petit peu qui viennent relever le tout. Bon, là sur la version d'hiver, j'ai voulu mettre en avant vraiment le malt, et c'est pour ça qu'il y a moins ce côté IPA. Parce qu'avant c'était un mélange entre une stout et une IPA la pâtissière. Et là pour l'hiver, j'ai voulu un truc plus recentré sur le malt, le côté grillé, café un petit peu, enfin plutôt chocolat noir, je dirais. Je sais pas si vous l'avez aussi.
Là, pour l'instant, il y a vraiment le côté pain grillé qui me prend le pas pour le coup. J'ai pas encore. Pas encore décelé le chocolat.
Quand tu laisses un peu, enfin quand
plus, plus léger. Ouais,
entre deux gorgées, au bout d'un moment, t'as un peu. C'est vrai que ce côté un peu chocolaté qui est en fond de bouche. Non,
On n'est pas sur du café violent et amer, quoi. Comme tu trouves souvent, ou même des fois le côté cramé, en fait, un petit goût de fumée ou de quoi. Là, c'est plus light.
Je la trouve meilleure en tout cas que celle que j'avais bu la dernière fois.
C'était la version 5 que t'as bu la dernière fois.
Il me semble, au cinéma.
Bonne question.
Ouais, je crois que c'est au cinéma. Qui avait ce côté cinéma, houblonné, herbeux un peu peut-être.
Bon, moi c'est la seule fois que j'écoutais ta pâtissière. C'était au cinéma il y a donc à peu près un mois, deux mois. Je la trouve un petit peu plus agressive, petit peu plus. Âpre, non, enfin, c'est pas le bon mot, hein, faudra pas garder ça. Mais,
non, mais si, je vois ce que tu veux dire, c'était par rapport au. Je l'avais houblonné différemment, en fait. Et ouais. Effectivement, non, ça peut correspondre à une amertume peut-être un peu plus verte, plus agressive sur
ouais,
le palais.
Ouais, ouais. Et je préfère largement celle-là.
La recette a de nouveau changé maintenant qu'il y a de l'avoine qui vient de faire son entrée. Et puis, ah oui, aussi, énorme changement sur la version 7. C'est que j'ai remplacé le houblon Amario, qui est un houblon américain, par du houblon Barbe Rouge alsacien, qui n'a rien à voir au niveau saveur. Mais l'objectif, c'était d'avoir avec le Barbe Rouge en fait une espèce de douceur un peu fruitée, florale, vraiment plus sur de la légèreté. Alors que bon, le Amario est relativement doux aussi, fruité, mais il est américain. Et moi, j'aimerais retourner sur le terroir, l'Alsace, c'est possible.
Et pour rapport au houblon alsacien, on entend beaucoup parler du Barbe Rouge pour le coup.
Il est génial. Sur une bière de printemps, c'est un de mes préférés, franchement. Après, j'aime beaucoup le Mistral, qui est franchement top aussi.
Mais hormis le Mistral et le Barbe Rouge, est-ce qu'il y a d'autres houblons alsaciens qui commencent à émerger ou vraiment qui sortent du lot
Bah, franchement, enfin bon, le Mistral et le Barbe Rouge, on en parle pas mal parce que c'est des nouvelles variétés qui ont été développées il y a quelques années seulement.
C'est un houblon que tu peux pas trouver, j'allais dire, en vente libre
Si, ça c'est une variété maintenant qui est disponible en vente libre. Après, ils en ont d'autres, genre, je sais plus, le P9010, le GJ12, tu vois, c'est des variétés expérimentales.
Là, justement, ils en ont sorti un il n'y a pas longtemps, non parce que...
C'est quoi, c'est des greffes, alors?
Bon, c'est des croisements. C'est assez impressionnant, j'avais lu une fois un article là-dessus où ils racontaient combien ils doivent faire de croisements et les faire pousser, mesurer, enfin, faire plein d'analyses avant de réussir à avoir une variété OK.
Une certaine uniformité.
Je crois qu'ils font 10 000, ils font pousser 10 000 plants différents, 10 000 croisements. Non, mais ça prend des années, tu vois, une décennie quasiment pour développer une nouvelle variété. Et là, le comptoir agricole, bah, ça fait des années qu'ils font ça, et là, ça commence à venir, et c'est parfait parce que ça tombe juste au bon moment où il y a les microbrasseries qui commencent elles aussi à chercher du français, de l'intéressant, enfin du local et puis du savoureux.
Bah, pouvoir sortir un peu de ces houblons américains qui, eux, avaient justement de l'avance dans la recherche et qui ont ces houblons hyper, hyper aromatiques qui nous manquaient et qu'on commence justement à retrouver maintenant.
On commence à développer pas mal. Il y a le fameux Strisselspalt dont on n'a même pas parlé. Alors que le
bien
fameux...
sûr, on voulait pas le nommer.
Voilà, c'est ça.
Et il me semble qu'il y a un industriel là maintenant récemment.
Cronenbourg, je crois.
Ça doit être ça qui a mis au houblon rare Strisselspalt. Bref.
L'alcoolisme, non, peut-être pas l'alcoolisme chez les brasseurs, mais justement, quand t'es brasseur, est-ce que c'est pas compliqué de gérer ça?
Bah, faut rester attentif, clairement. Je vois, c'est sûr que quand je commence ma journée de travail, que j'arrive dans l'atelier, puis que bah, je fais un petit suivi qualitatif des fermentations, tu vois, tu sors un échantillon d'un demi-litre pour mesurer la densité. Bon, bah, faut le goûter aussi, faut pas le jeter. Bon, il est 9h du mat, quand même, faut faire gaffe.
Et du coup, tu vas pas travailler comme dans le vin où tu vas cracher?
Alors, c'est vrai que j'ai pas pris l'habitude de cracher, c'est peut-être une mauvaise habitude, mais bon, après, faut juste pas abuser, quoi. Si tu prends une gorgée de chaque, il y a 4 cuves, ça va, quoi. 4 gorgées.
Parce que c'est vraiment, enfin, moi je sais que sur la dégustation de bière, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression que les gens ont pas l'habitude de recracher, autant sur le vin, même si moi, chaque fois que j'ai dégusté du vin, j'ai jamais recraché. Mais c'est ça fait voilà, c'est
moi, ça me fait trop mal au cœur de gâcher le produit, quoi. Ouais, je sais le travail qu'il y a derrière.
Je suis tout à fait d'accord, c'est quand tu sais le boulot qu'il y a, la moindre des choses c'est d'apprécier et de le boire.
Pour être distribué dans les bars, on sait qu'il y a j'ai l'impression que ça se débloque un peu en ce moment, mais il y avait, alors je me souviens plus comment que ça s'appelle quand tu
ouvres un bar,
ouais, les contrats brasseurs.
Putain, parlons.
On peut c'est un truc que je trouve intéressant parce que pendant longtemps on retrouvait justement la même marque de bière dans les bars et dans tous les bars souvent là, enfin t'avais pratiquement partout.
Ce qui se passait à l'époque en fait, c'est que les brasseries, les grands, Meteor, Heineken, Fischer, tout ça, les mecs ils ils avaient un budget, en fait, des grosses brasseries, ils payaient les installations, les tireuses, et ils faisaient l'entretien au bar et au resto. Donc le resto était gagnant, il n'a pas besoin de claquer 5 ou 6 000 balles pour...
Ouais, mais la contrepartie, c'est qu'il devait sortir tant et tant d'hectolitres.
Voilà, c'est ça. À l'année.
Et donc du coup, le mec se permettait pas d'avoir un bec pour un brasseur amateur.
Ah non, mais il avait même pas le droit. Il y avait un contrat d'exclusivité. Le barman signait. Ok, tu serviras que de la Météor, que de la Fischer, que de la. Enfin bref.
Non, mais même quand il était pas obligé, il le faisait pas parce qu'il avait peur de pas pouvoir sortir son nombre d'hectolitres pour la Heineken ou la Kronenbourg. Bref, les grosses brasseries. Et donc du coup, ça empêchait pendant très longtemps le développement des micro-brasseries artisanales en France.
Et alors malheureusement, c'est que maintenant je viens de me rendre compte assez récemment qu'il y a des artisans comme moi, un petit peu plus gros, tu vois, mais qui commencent à s'y mettre aussi, à faire des contrats. Enfin, en l'occurrence, bon, Stukenspiel, il y avait comme ça, c'était réservé vraiment aux... Alors c'était un contrat tacite, tu vois, ok. Mais c'est vrai que c'est, philosophiquement, ça me pose un petit problème comme ça, que des artisans se mettent à faire ce qui nous empêchait de bosser avant, tu vois. C'est pas...
Après, au-delà de ça, moi, je me demande aussi si il n'y a pas aussi, alors je sais pas, mais c'est une société ou un truc qui justement, ouais, j'avais entendu ça aussi, qui regrouperait différentes micro-brasseries.
C'est des distributeurs, en fait.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un distributeur qui reprenait le.
Presque comme une coopérative.
Avec la philosophie en moins, j'ai l'impression.
Ah oui, bien sûr.
Bon, après, faut pas se le cacher, ça reste un business. Hein. Mmh. Je veux dire, au-delà, je veux dire, c'est rien que, même si c'est pas forcément bien en vivre, mais je veux dire, la réalité économique, elle est aussi là. Je pense que déjà, quand t'es microbrasseur, faut déjà réussir à en vivre, parce que je pense qu'il y a aussi cette vu qu'on sait que ça se développe énormément, qu'il y a beaucoup, beaucoup de brasseries, on sait qu'il y a encore de la place pour tout le monde, mais
pendant combien de temps
quand tu démarres, c'est ce que tu as abordé avant sur le fait de, bah, souvent, c'est des gros investissements, donc il faut rembourser les crédits. Donc, je pense qu'avant d'en vivre, il y a déjà du boulot, et avant de bien en vivre, il y a encore beaucoup, beaucoup de plus de travail, quoi.
Et ça passe malheureusement par ce genre de contrat, histoire de s'assurer un petit peu derrière.
Mais tu vois, je suis pas sûr.
Mais
parce que le mec,
en termes philosophiques, on est d'accord.
Mais le mec qui passe un contrat comme ça, il est obligé de brader sa bière, il la vend que dalle. Donc au fond, il s'impose de produire. Ok, il a la sécurité d'avoir tous les mois une certaine rentrée d'argent, d'accord. Mais d'un autre côté, cette sécurité lui coûte vachement cher parce qu'il est obligé de brader sa bière à 3 francs 6 sous, quoi. Alors que quand tu fais de la vente directe, il n'y a pas le distrib qui se prend sa marge par-dessus. Quoi.
En termes de matières premières, sans parler de la main-d'œuvre, des coûts de fonctionnement, tout ça. Un litre de bière artisanale sur une bière, je dirais
moyenne, quoi.
Moyenne.
Combien tu te fais sur chaque fût?
Non.
c'est pas ça.
Non, c'est pas ça.
Combien coûte au litre les ingrédients?
Ah ouais.
Bah, en vrai, pas grand chose. Déjà, quand tu regardes les taxes de douane, tu vois, à peu près, une bière à 5% d'alcool, c'est à peu près 20 centimes du litre. Et en fait, les ingrédients, c'est à peu près pareil, c'est aussi à peu près 20 centimes du litre. En vrai, c'est pas cher. Parce que quand tu regardes, il faut acheter le malt en grande quantité.
En brassage amateur, t'es vite à 2€, 2,50€, suivant les quantités de houblon que tu vas mettre, qui est une des variables importantes.
Ton houblon, tu le payes, les 100 grammes des fois, j'ai vu des paquets à 15 balles. Quoi.
Ouais, c'est hors de prix. Ouais.
C'est abusé. Alors que nous, en tant que pro, t'achètes 5 kilos, des fois t'es à 15€ le kilo. Tiens. Quand vraiment tu prends des grosses quantités, bon, ça dépend des houblons, évidemment, du citra, tu vas toujours le payer cher, il n'y a pas photo. Le kilo de malt bio, en palette, hein. Je sais pas, 90 centimes quoi, hors taxe. Et avec un kilo de malt, tu fais 5 litres de bière. Tu rajoutes la levure et les houblons, pour peu que tu mettes pas beaucoup de houblons.
Ouais, mais du coup, t'es loin des 25 centimes. Attends.
Mais là, je parle en bio.
Ah, en bio.
Parce que moi, je disais 25 centimes pour la bière, entre guillemets, traditionnelle. Enfin, sans être bio, ouais, sinon pour le bio, on est peut-être à 30 ou 35, j'en sais rien. Mais par contre, oui, rembourser le prêt, payer les salaires, payer le loyer, là tout d'un coup, le prix au litre, il augmente vachement. Quoi. Et le packaging aussi, putain, le prix de la bouteille.
Les bouteilles, l'étiquetage, ce genre de choses auxquelles on pense. Pour reprendre ton exemple, les étiquettes, c'est le graphisme est assez simple. Et tu réutilises les mêmes étiquettes pour plusieurs bières, non? Si je me trompe.
Alors oui, effectivement, j'avais fait ça. Je les ai achetées en plus grande quantité et j'ai laissé un blanc sur l'étiquette que je pouvais remplir. Par la suite, bon, remplir à la main, ça prend un temps de dingue. Donc maintenant, je vais arrêter ça. C'est surtout qu'au début, j'avais un fournisseur qui me les vendait 25 centimes l'unité. Eh oui, ça fait cher par bouteille. Eh oui.
Ah bah, si tu vois, si tu te dis que t'es à 25 centimes du litre en matière première à produire et que l'étiquette te coûte autant qu'un litre, c'est incroyable.
Mais
hein.
Oui. Le packaging, pour moi, le packaging était très cher. Alors maintenant, que j'achète des plus grosses quantités, que j'ai changé de fournisseur, il y a moyen, en vrai, il y a moyen de les avoir à 5 centimes l'unité, l'étiquette. Même 3 centimes l'unité. Mais il faut en prendre des milliers. C'est ça le problème, des milliers, vraiment. Et comme moi, je change tout le temps de recette, avoir des milliers d'étiquettes, c'est quand même pas...
Pour toi, c'est pas viable.
Si vraiment,
pas avec ta façon de brasser.
Si, à la rigueur, si je faisais des brassins de 500 litres, ça peut me faire 1500 bouteilles d'une recette. Là, ça. Mais alors, il faut faire que des bouteilles de 33. Sauf que moi, je veux faire des fûts pour les festoches, et je veux faire des bouteilles de 75, parce que bah, c'est quand même plus facile à trimballer, plus rapide à remplir, et puis les gens sont intéressés aussi pour des bouteilles partagées, quoi. D'ailleurs, j'ai pensé à un moment donné arrêter les bouteilles de 33 parce que bah, c'est long, c'est chiant, c'est cher, c'est pas rentable, c'est plus polluant, enfin bref, plein de choses. Et puis même, mes bières, c'est des trucs à partager de toute façon, quoi. Donc, mais bon, pour l'instant, j'ose pas encore passer que à la 75.
Bah, justement, sur le partage, on était, pendant longtemps, on était justement sur ce format 33 centilitres. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'on va vraiment de plus en plus justement sur le format 75. Mmh. Comme tu vas partager une bouteille de vin, comme ouais. tu vas faire une soirée pain, vin, fromage.
Si on en goûte deux à chaque épisode, on va être bourré. Hein.
Ouais, voilà, en 75, clairement. C'est clair. Ou alors, faut inviter plus de gens encore. Voilà.
Ah, ça va falloir qu'on. Allez, vu comment que c'est compliqué de configurer trois micros.
si la complexité est exponentielle, là, on est mal barré avec le 4.
D'ailleurs, si un ingé son nous écoute,
on est preneur.
Qu'il n'hésite pas à nous contacter via le compte Twitter ou Instagram.
Mais c'est vrai que ouais, des bouteilles de 75, on commence à en boire. J'achète beaucoup en 33 pour différentes raisons, parce que déjà. Que c'est plus facile à trouver. Mmh. Mais c'est vrai que souvent, quand j'ai des amis qui viennent à la maison, t'as plein de bières que t'aimes et que t'as envie de boire avec les gens. Et tu dis, mais si t'es 4, ouais. une 33, c'est un ridicule. Verre, quoi. C'est... Ouais. Et donc, je pense qu'il y a un vrai, y a un vrai avenir pour le, vois, pour le format 75.
T'es pas le seul à me le dire. Moi, j'ai un barman, justement, l'aubergiste à Tannes, le mec avec qui j'ai vraiment commencé à me lancer en pro, en gros volume. Enfin, tout est relatif, mais bref. Bah, lui, il me dit, ouais, il arrête complètement les 33, il fait que la 75 maintenant. Il s'en bat plus. Après, c'est aussi son côté rentabilité, tu vois, faut qu'il tourne. Donc, il fait plus de volume avec les 75, mais même les gens viennent chez lui, ils disent « Ok, ben, on fait une soirée ce soir, donne-moi 2, 3, 75. »
Mais après, le problème du format, c'est... Alors, maintenant, ça irait mieux parce que j'ai un plus grand frigo. Mais avant, j'avais un frigo qui était plus petit. Et donc, ton growler de 2 litres et demi, pour le mettre au frais, c'est juste l'enfer. Ouais. Donc, c'est pas gérable. Et surtout, ça se garde. Très peu de temps.
Ouais, une semaine max, quoi.
Même pas. Enfin, ouais. Une fois ouvert, c'est...
2 litres, faut y aller, hein.
Mmh. Bah, tu vois, hier soir, petite soirée, on était 6 autour de la table, les 2 litres sont passés, quoi.
Oui, non, oui, pour une soirée mais... à 6, on est voilà, d'accord. Mais
faut être au moins 5.
Voilà. Là, je parlais à 2 en couple, si t'achètes un growler, tu vois, ouais. C'est pas du tout viable. Faut avoir soif, hein. Ouais, non, mais clairement.
Mais même en 2 jours, le growler de 2 litres à 2... Ouais, ça peut passer. Bah si, ça fait une pinte chacun tous les jours.
Moi j'y arrive. Hein,
ouais, ça va.
Oui, tu me diras, c'est vrai que si tu le ramènes à une pinte par jour,
mmh, ouais.
C'est pas grand chose.
Enfin, une pinte par jour et par personne. Ouais. Puis, du coup, la bière, tu l'as.
Avec modération, hein, on le rappelle.
Soit dit en passant, moi je me vois quand même comme un dealer de drogue dure. Il faut être honnête avec soi-même. L'alcool, c'est une drogue dure. Faut le dire. On parlait d'alcoolisme avant, mais je l'ai pas dit, mais si. C'est addictif, c'est.
J'ai pas envie d'en parler.
Ça peut détruire. On appelle ça le déni.
J'ai pas envie d'en parler.
Non, mais moi, de toute façon, moi, je bois que pour le podcast. Hein.
Oui, moi aussi.
Est-ce que j'ai fait un podcast pour boire?
Ah, ça. Qui de l'œuf ou de la poule est venu en premier?
L'histoire jugera.
On en reparle dans 10 ans. Et donc, pour terminer.
Ouais, pour terminer, une boisson un peu spéciale, en tout cas pour nous.
Mmh. Pour moi aussi.
D'accord, donc du coup,
une place spéciale dans mon cœur.
On va goûter ton hydromel, yes. Si tu peux un petit peu nous en parler.
Alors, bah, l'hydromel, comme j'ai peut-être pu le dire un peu précédemment, c'est un vin de miel que je fais de manière assez particulière, c'est-à-dire qu'on en trouve d'autres sur le marché français, mais ça a tendance à être un peu plus fort en alcool. Le mien est seulement à 8,6, si je dis pas de bêtises.
T'as un exemple de marque de...
Pas du tout. Je connais que dalle.
D'accord. Non, mais parce que moi non plus. Hein.
Ouais.
Bon. Pour moi, l'hydromel, c'est vraiment l'alcool chelou que tu ramènes de tes vacances en Bretagne.
Oui, alors c'est
ça, c'est le cidre. Hein, mais
le chouchène. Non, ils font de l'hydromel breton qu'on appelle le chouchène. Alors, en plus, ils sont même pas d'accord entre eux de ce que c'est réellement. Il y en a qui te disent que c'est du miel fermenté avec les ferments naturels de la pomme. Il y en a qui te disent que c'est du cidre avec du miel dedans. Il y en a d'autres qui te disent que c'est de l'hydromel mais avec un chelouk de schnapps dedans. Enfin bref, j'ai entendu plein de trucs là-dessus. Oui, il n'y a pas une seule recette identique. Quoi.
Ils utilisent le terme schlouk en Bretagne.
Oui, j'en doute fort.
Schlouk, ça veut dire gorgé.
Oui, pour les Français de l'intérieur qui nous écoutent. Bienvenue dans l'Alsace.
Tu couperas ça. Oui. On ne veut pas passer pour des racistes.
Oh.
Non, bon.
Elsace Fry.
Oh, les riz noirs.
Mais... Oui, non, mais. Alors que c'est encore nous qui allons devoir les supporter. Hein.
Ouais. Alors, où on est, on parlait d'hydromel, et du coup, je disais que effectivement, l'hydromel, tel que je le conçois, est une boisson assez spéciale, parce que je le fais seulement à moins de 9% d'alcool, alors qu'en général, il est plutôt autour de 12, 13, 14, 15, comme du vin, en fait.
Ouais.
C'est du vin de miel, vraiment. Sauf que moi, c'est un vin léger.
Toi, tu le bois à quelle occasion? Tu le ferais boire à quelle occasion?
Alors, ça peut dépendre. En général, moi, je suis plutôt en apéro, j'aime bien. Pendant le repas, ça peut être sympa, mais pas avec n'importe quel repas, peut-être plutôt avec des viandes blanches. Mais comme je ne mange pas de viande, bah... à votre guise.
Idem. Ouais. Mais donc, du coup, ouais, pour toi, c'est plus un apéritif.
Ouais, moi, je l'apprécie vraiment dans ce contexte-là. Mais vraiment, un apéro où tu prends le temps de le déguster tranquillou, donc tu le sers bien frais au début et tu le laisses se réchauffer dans le verre peu à peu, tu vois. Et ma version préférée, c'est quand il est pétillant. Alors, genre, je fais dans deux versions. Je fais une version plate comme du vin blanc et une version pétillante qui peut rappeler le crémant, le champagne, quoi. Mais juste moins fort. Tu dis vin de miel aux gens. Les gens, ils se disent, ok, ça va être sucré, ça va être doux, ça va être rond, ça va être fort en alcool, fort en goût. Alors qu'en vrai, le mien est sec. C'est un vin sec, même avec une pointe d'acidité en fonction des versions, en fonction des miels que j'utilise.
Comme un Riesling.
Oui, potentiellement. Oui, bah c'est ça, comme un vin blanc sec, en fait, concrètement. Donc oui, tu peux avoir une acidité même des fois un peu plus forte que le vin. Ça dépend vraiment des lots, ça dépend de comment je mène la fermentation.
La méthode de fabrication, tu peux nous en dire un petit peu plus?
C'est du miel, de l'eau et de la levure. Et je laisse la levure travailler pendant un bon mois.
Mais quoi, ça veut dire que tu mélanges tout simplement ça dans une cuve et tu laisses faire?
Ouais, c'est ça. Okay. Et puis bah, je mets la levure comme... En fait, je réalise mon mélange d'eau et de miel, ça me fait ce qu'on appelle un moût, donc un liquide sucré et savoureux. Et ensuite, je le fais fermenter comme je ferais fermenter de la bière ou du vin, tout simplement. Mais là, je maîtrise la température. C'est un petit peu un profil de fermentation différent. Je suis un petit peu plus froid que la bière en général. Je suis autour de 18 degrés. C'est vrai que la bière en général est plutôt autour de 20. Ça dépend des bières, de toute façon. Et vraiment, la fermentation est assez longue. Vraiment, je mets pas de nutriments pour accélérer la fermentation. Je corrige pas le pH ni rien. Je laisse vraiment juste les levures travailler, faire leur taf tranquillement. Et du coup, en un mois, on est à peu près bien. Et après, un mois en bouteille au moins. Même si possible, deux voire trois mois. En général, plus on attend, et meilleur il est. Quoi. Vraiment, les saveurs s'équilibrent, la robe se clarifie. Là, celui que j'ai ramené ce soir au tilleul, il doit avoir deux ou trois mois, je pense.
Ouais, septembre. Ah non, attends, ça c'est la DLUO. Ouais. DLUO,
ouais, mais j'ai mis un an. J'ai mis un an. D'accord. De DLUO, donc je l'ai embouteillé en septembre. Okay. Donc ça fait deux mois qu'il est en bouteille. Ouais. Et du coup, bah, là, on remarque. Bon, déjà, il était bien clair de base. Et là, bah, maintenant, il est juste parfaitement limpide. Quoi. Ça c'est aussi le plaisir visuel, tu vois. C'est vachement important, je trouve.
Bah écoute, on va se lancer.
Yes, non ouais. Filtré, non pasteurisé. J'attends ouais. D'avoir votre avis sur celui-ci. En plus, avec le miel de tilleul qui est super intense. Ça, c'est un bruit qu'on aime entendre.
Alors avant, on parlait de vin de mousseux. On est...
Il y a quelques bulles qui remontent chez toi quand même. Hein. Il ouais. Est très très légèrement pétillant, mais c'est pas, il n'a pas été resucré à l'embouteillage. Donc il n'y a pas eu de refermentation vraiment intense en bouteille. Donc c'est très très très, très léger.
Mais c'est très clair, on va retrouver vraiment un côté vin blanc hein, presque.
Ah ouais, là, mais. Il est parfaitement limpide, c'est magnifique.
Mais plus sylvanaire que le côté doré du Riesling.
Mm-hmm. Ouais, mais on est vraiment sur un côté pâle. Mais c'est vrai que le miel de tilleul que j'ai est assez pâle. Par contre, quand je l'ai fait avec le miel de forêt, on part sur un très léger orangé, tu vois. Ça va dépendre du miel utilisé.
Et puis ça sent le miel, quoi. Enfin, vraiment, ouais. Vraiment...
Et tu veux que je te dise, dans ce cas-là, il me semble que moins, c'est plus. C'est-à-dire que si j'avais mis plus de miel pour la même quantité de liquide, j'aurais eu un taux d'alcool plus élevé. Je peux très bien le faire. Si je veux monter à 15%, je monte à 15%.
Mm-hmm.
Et les levures en sont capables. Mais le fait de monter plus haut en taux d'alcool, la chaleur et l'intensité de l'alcool cacheraient en fait, le goût du miel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, notamment les corbeaux d'Audin à Agneau, le bar médiéval qui m'achète tout mon stock d'hydromel en ce moment, et qui sont d'ailleurs déjà en rupture, ils le vendent trop vite, j'arrive pas à suivre, mais bref. Eux m'ont dit, en fait, ils ont goûté plein d'autres hydromel qui sont beaucoup plus forts en alcool, mais dans lequel on sent moins le... Alors, là, j'ai eu le visage qui s'est éclairé à la première gorgée, là, c'était magnifique à voir, ça. Je me dis, waouh. Raconte-nous.
C'est surprenant, beaucoup de saveurs, mm-hmm. C'est assez punchy.
Ouais, ça dépote, hein.
Ouais, je trouve ça super bon.
Merci.
C'est très miel.
Ouais.
Mais il y a une petite pointe d'acidité
mm-hmm.
qui va très très bien, qui va très très bien au truc, quoi.
Et il y a le côté sec du
ouais.
Vin.
Ouais, ouais, ouais.
Mmh. Il me reste 20 bouteilles, je vais pas les vendre en fait. Je vais garder pour moi parce que.
Et pour le coup, il est légèrement pétillant.
Ouais, ouais, très, très très légèrement et ça lui va super bien. Mmh.
Mais je pense, en fait, la fermentation va un tout petit peu continuer tout doucement en bouteille, à température de cave en plus. Ça va vraiment évoluer tout doucement et il sera jamais vraiment pétillant, il sera jamais un crémant ou un champagne, quoi. Loin de
ouais, mais c'est, écoute, c'est pas plus mal. Hein.
Mmh. Oui. Et oui, du coup, comme je disais, les patrons du bar médiéval, les Corbeaux d'Audin à Gnome, racontaient en fait qu'eux, étant fans de boissons médiévales en tout genre, sur les conventions médiévales partout en France, ils ont déjà bu pas mal d'hydromel différents. Et ils me disaient la différence entre ceux qui boivent d'habitude et le mien, c'est que le mien, en fait, il est moins fort, mais on sent plus le miel. Ah, je crois qu'on a bien fait de finir là-dessus, franchement. Là.
On l'avait déjà goûté, enfin j'avais déjà goûté ton hydromel une première fois chez Benoît.
Ouais, donc celui à l'érable, la dernière fois.
Je le trouve moins liquoreux, celui-là.
Oui, et bah c'est le cas, en fait, parce que le miel d'érable, en fait, il n'y a pas les mêmes molécules de sucre dedans. Naturellement, c'est ce qui différencie d'ailleurs le miel et le miel. Donc le premier que tu as goûté, le miel d'érable, il y avait plus de sucre résiduel. Il était plus doux, plus rond, naturellement. Sans que j'ai besoin de rajouter de sulfite ou quoi. Bah, je fais pas ça, tu vois. Comme j'ai dit avant, je laisse la fermentation se faire naturellement. Je rajoute pas de sucre, je rajoute pas de sulfite, pas de clarifiant, pas de nutriments. Enfin, vraiment, juste le miel, l'eau, la levure.
Le produit.
Voilà, c'est ça.
Et le miel, tu t'approvisionnes dans le coin ou dans le coin
chez
de
monsieur
chez toi
Siegfried à Sundhofen, près de Colmar. Donc ouais, un petit apiculteur local qui a 200 ruches, hein, bon, petit apiculteur. C'est juste ce qu'il faut pour en vivre, en fait. À partir de 200 ruches, ça devient rentable, apparemment. Et il faut en faire quelques kilos, quand même, pour se sortir un salaire, et puis c'est du taf. Hein. Celui au tilleul, du coup, est beaucoup plus intense en saveur. C'est un miel qui, à quantité égale, a une saveur qui est 2, 3, 4 fois plus forte, quoi. Et j'ai déjà essayé, donc miel de forêt, c'est vachement sympa. Bah là, j'en ai refait une pour l'hiver. Il y a un côté plus épicé, un peu chaud. Tu vois. Et j'ai aussi essayé miel de châtaignier, c'était sympa, mais il y a une petite amertume avec le châtaignier, donc il faut faire un petit assemblage, ça peut être cool. Et miel de fleurs. Miel de fleurs, ça c'est super fin, mais un peu vachement plus acide, en fait.
Et du coup, essayer de partir sur un hydromel, tu vois, genre un hydromel de Noël, mm-hmm. où tu pourrais mettre des épices comme un.
Pas besoin, en fait. Avec le miel de forêt et la bonne levure. Tu laisses le travail se faire tout seul et tu as des saveurs épicées qui vont sortir. Bah déjà, c'est un peu résineux avec le miel de sapin et autres qui a une certaine proportion dans le miel de forêt. Et ça suffit en tant que tel. Après, tu vas jouer aussi sur la température de fermentation. Comme je disais, je fais fermenter un peu plus. Mon hydromel, il fermente autour de 18 degrés. Bah pour ressortir le côté épicé qui peut provenir de la levure, je fais fermenter un peu plus chaud. Tu vois. C'est une question de choix. Faut faire des choix.
C'est marrant, il y a presque un côté là il se réchauffe un peu et on retrouve un côté amande, je trouve, au nez. Je sais pas si.
Ouais, si, c'est vrai. Mais c'est cette douceur là que j'ai aussi du mal à décrire vraiment. Après ça peut venir de la fermentation, du coup le fait que j'ai choisi une levure à vin et que je fasse en fait ce que les vignerons appellent un élevage sur lit, c'est-à-dire que pendant plus d'un mois, mon vin de miel, mon hydromel reste sur les levures qu'il y a au fond de la cuve. Même pendant une période de garde à froid. Et ça permet à la levure de relâcher certains composés aromatiques et d'équilibrer les saveurs et les textures. Et donc ça peut être les glycérines, si je dis pas de conneries. Ouais, moi ça me rend un peu triste, tu vois, parce que je le trouve tellement meilleur en pétillant. Ça révèle encore. Genre, il est un peu plus fin, parce que la pétillance l'aura un peu plus fin en bouche. Mais ça révèle des saveurs au nez, c'est. Les petites bulles qui remontent vont libérer les saveurs et du coup t'as un bouquet qui se libère, mais alors.
C'est pas agressif. C'est punchy. Y a un vrai truc. Y a une vraie puissance, enfin, en tout cas. Moi j'aime beaucoup.
Après, tu vois, avant on parlait du pain vin fromage et du t'as la version avec de la bière. Mmh. Qui est assez compliqué à faire parce qu'il n'y a pas encore on n'a pas encore des accords automatiques entre les bières et le fromage. Et je me dis, un hydromel.
Avec un Munster.
Ouais.
Ah, moi j'aurais du mal.
Ah ouais.
Ouais. Je sais pas, l'acidité avec le Munster.
Ah, moi, après, c'est personnel. Ça apporterait un peu de. Tu vois, justement, avec un fromage un peu costaud, ça apporterait un peu de douceur pour contrebalancer.
Pas avec un Brie ou un Comté, mais avec un Munster, un truc qui. Fort, enfin je trouve personnellement.
Faudrait qu'on teste, hein. On se retrouve bientôt.
Avec plaisir, ouais.
Non, mais c'est vrai que, ouais, non. Bah, peut-être, je sais pas, avec un Comté, tout avec un Comté.
Ouais, Comté, c'est bon. Tout est bon.
Je suis pas fan de Comté.
T'as jamais mangé un bon Comté. Je te ramènerai de Franche-Comté si tu veux, j'ai un pote qui vient de faire.
Je suis un dingue de Comté.
J'aime bien, mais y a un vrai culte autour du Comté où je me retrouve pas du tout.
Après, moi, mon péché mignon en ce moment, c'est le Morbier. Alors ça, mon gars.
J'allais checker parce que là, moi aussi. Hein. Là, moi, je suis Morbier.
Le Morbier en raclette.
Ah ouais, ça.
Ouais, moins. Okay, moins. Bah, écoute, j'en ai fait la dernière fois. Là, lundi, bah, j'ai kiffé. Je le préfère sur du pain frais, sur une baguette fraîche.
Mais tiens, en parlant d'accord, comme on disait avant, pain, vin, bière, du coup, on m'a récemment conseillé avec la pâtissière version 5, celle qui était un peu herbeuse que tu disais avant, un accord pâtissière gorgonzola. Tu as bière brune gorgonzola. Et le mec m'a dit, oh, c'est vachement bon.
J'aime pas les fromages persillés.
Ah, j'étais dubitatif aussi. Alors j'aime bien, je suis plutôt roquefort que gorgonzola, mais.
Le gorgonzola, bon, une petite dose, hein, mais une petite tartine.
Moi, j'ai eu un doute, tu vois, mais maintenant j'ai envie de tester. J'ai vraiment envie d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait aller avec cette bière. Il y a une sale malédiction du brasseur. Alors moi, je bois mes bières parce que, ben, mine de rien, je les aime quand même pas mal. Mais putain, je suis maudit en buvant mes bières parce que je leur trouve que des défauts. Je sais comment elles ont été faites. Je me dis, merde, j'aurais dû mettre 1% en plus de malt torréfié. J'aurais dû fermenter un degré moins chaud. J'aurais dû. Enfin, tu vois.
Ça, c'est le côté perfectionniste de l'ingénieur.
Je pense qu'on l'est tous. Franchement. Je pense qu'on l'est tous.
Hyper critique.
D'un autre côté, tu vois, à mon avis, il y a un truc qu'il faut garder en tête quand tu dégustes une bière. Ok, c'est bien de déguster, d'analyser, de chercher. Ok, je sens cette saveur, ce machin, ce truc. Est-ce qu'elle est équilibrée ou pas? Tu vas se poser des questions, réfléchir beaucoup. Mais d'un autre côté, la dégustation, c'est avant tout un moment où il faut peut-être que tu arrives à justement te couper, arrêter de trop réfléchir. Et ça, quand je bois mes propres bières, j'ai du mal. Autant je bois la bière d'un collègue, j'allais dire concurrent, mais non, d'un collègue. Je me dis, ok, ouais, c'est intéressant et tout, je découvre des saveurs, mais je réfléchis pas trop. Donc je profite du moment de dégustation, tu vois, de la surprise, des saveurs et tout, je me laisse vivre, tu vois. Mais par contre, quand je bois mes bières, je suis dans l'analyse, dans la critique, dans vraiment l'identification des défauts, des saveurs, des équilibres, toutes ces choses-là, tu vois. Trop dans l'analyse. Et ça, c'est un truc avec les sites comme Rate Beer et autres, où tout le monde est invité à laisser une note sur chaque bière, à laisser une analyse, à critiquer, à se prendre la tête. En fait, merde, la bière, c'est aussi un moment de détente entre potes, quoi. Faut pas trop se prendre la tête.
Je pense que c'est le problème de, bah, pour par exemple, un ingé son qui va aller à un concert et qui va pas réussir à apprécier le concert, qui va dire, ah, putain, mais là, il aurait pu mettre plus d'aigus, là, il aurait pu... En tant que brasseur, est-ce que c'est facile, justement, d'avoir ce côté, quand tu dégustes... Alors, quand tu as tes bières, tu es forcément critique. Ouais. Mais quand tu dégustes les bières des autres, de ne pas avoir le côté où tu te dis, ben, le mec a fait ça, le mec aurait dû faire ça, est-ce qu'il a utilisé ça?
Ça, tu vois, j'ai ce problème quand je déguste en face du brasseur. C'est-à-dire que je l'ai en face de moi et du coup, je me dis, tiens, c'est vachement bon, comment il a fait ça? Et je lui pose la question, tu vois, parce que j'ai envie de savoir. Mais quand je n'ai pas le mec en face de moi, ou quand c'est juste un festoche auquel le mec il me sert le verre et puis je dois laisser ma place à quelqu'un d'autre, ben je profite juste. Tu vois.
Du coup, un épisode assez dense.
Effectivement.
On a abordé pas mal de sujets, pas mal de sujets assez intéressants.
Pas mal de digressions aussi.
Ouais, mais après, enfin, c'est aussi. Est-ce que c'est pas aussi un peu ça la bière?
Si, tout à fait.
Non, mais puis on pourra creuser certains de ces sujets avec Quentin dans une autre émission avec plaisir.
Si on veut te retrouver, Quentin, c'est où?
Bah, c'est super facile sur les réseaux sociaux. Tu cherches Brasserie du Vallon, tu me trouves super facilement, ou tout simplement sur Google si tu veux retrouver le site web, le blog. Et c'est un peu curieux de voir mes expériences brassicoles et autres, ben, pas hésiter, cherchez brasserieduvallon.fr.
Et si on veut te boire?
Ouh, alors ça c'est plus compliqué par contre, rupture de stock et autres, mais...
Non, commercialement tu veux pas dire ça.
Ah bah si, bah c'est la vérité, c'est la vérité, mes produits sont rares, et il faut avoir la chance de tomber dessus. Non, je serai certainement à la braderie du 1er mai à Molsheim, je ferai pas mal de fêtes de la bière et tout, en tout genre, mais principalement en Alsace, je compte rester local, et j'ai pas vraiment de point de vente fixe, à part l'aubergiste à Tannes. Mais bon, faut être aurignois. À part ça, ouais, non, suivez-moi sur les réseaux sociaux et j'en parle en général quand je me déplace.
Ouais, voilà. Et puis, au pire, on peut te contacter pour faire des commandes.
Mais avec grand plaisir.
Ok, très bien.
Ou sinon, vous montez un podcast, vous l'invitez et comme ça.
C'est gratuit.
C'est pas fou.
C'est un peu pour ça qu'on a fait le podcast en vrai.
Le mec est pas si intéressant. C'est bien, oui, mais le mec est pas si intéressant.
Non, le podcast en général pour avoir des bières gratos.
Ah ouais.
En tout cas, merci d'être venu, Quentin.
Ouais, merci beaucoup.
C'est tout le plaisir est pour moi.
Merci de nous avoir consacré, c'est à peu près 4 heures d'enregistrement, dont 2 heures de réglage.
Ouais, minimum.
Ah, l'enfer de trois pistes.
L'enfer des trappistes. Un bon nom de bière, ça.
J'y réfléchirai.
Du coup, prochain épisode, Julien, le thème.
Bientôt.
Moi, je serais d'avis de partir sur, j'ai envie de dire, un thème bière sale.
C'est-à-dire?
Bah justement, la bière sale, mais pas de la Heineken ou de la Kronenbourg.
Dommage.
Voilà, je pense, non, une bière, voilà, quand je dis sale, c'est bière avec des ingrédients qui devraient jamais se retrouver dans la bière.
Le cassoulet. D'accord.
Ouais, voilà.
Pourquoi pas ?
Ouais, pourquoi pas ? T'as des infos ? T'as des adresses ?
On m'a parlé de la bière au cassoulet. J'ai ouï dire que ça existait, cette immondice. Quoi.
Je vais me lancer à la recherche de la bière au cassoulet.
Voilà, ou si vous nous écoutez, que vous brassez une bière au cassoulet.
Ouais.
Non.
Tenez-nous au courant. Un contact, ça peut servir.
Vous avez une bonne assurance vie, messieurs ? Non.
Un contact, ça peut servir. En tout cas, ouais, voilà. Allez, va pour les bières sales.
Allez. Salut tout le monde.
Salut. Bye.
Enlève ta moustache. J'ai explosé de rire.